Bienvenue dans cette nouvelle émission « Divers aspects de la pensée contemporaine ». Aujourd'hui, la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain.
Une émission présentée par Hervé Laurent et Anne Amis.
Les hommes de tout temps ont cherché des réponses à des questions existentielles qui interrogent le sens de la vie, le rapport à la mort et la compréhension du monde qui les entoure. Les mythes, en tant que récits fondateurs, ont pour fonction d'y apporter des réponses. Ils transcendent l'histoire réelle pour proposer des métaphores et des paraboles qui mobilisent à la fois l'esprit et l'émotion. Ces récits imaginaires, incarnés, ont donc une fonction structurante de la pensée humaine. Les mythes inspirent et nourrissent également la franc-maçonnerie depuis sa création. Ce matin, nous recevons Roger Daché pour évoquer cette thématique et questionner la relation entre mythe et histoire en franc-maçonnerie. Roger Daché, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, universitaire et historien, et surtout une référence incontournable de l'histoire de la franc-maçonnerie. Vos travaux, parmi lesquels « Nouvelle histoire de francs-maçons en France » et « L'invention de la franc-maçonnerie » font autorité et nourrissent aussi bien les chercheurs que les francs-maçons. Initié en 1980 à la Grande Loge de France, puis membre de la Loge nationale française que vous avez présidée de 1992 à 1997, vous êtes depuis 2018 grand maître des Loges nationales françaises unies. Vous êtes également président de l'Institut maçonnique de France depuis sa fondation en 2002. Par ailleurs, directeur de la revue Renaissance traditionnelle et membre du comité scientifique du musée de la franc-maçonnerie, vous êtes à la fois un chercheur exigeant et un passeur engagé, conjuguant rigueur historique, clarté pédagogique et souci constant de transmettre les valeurs et l'imaginaire symbolique de la franc-maçonnerie contemporaine. Une première question, Roger Daché. Vous dites que dès sa fondation, sous sa forme moderne, au début du XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie a voulu se raconter sa propre histoire. Elle aurait ainsi aussitôt mélangé le mythe et l'histoire, naviguant en permanence entre les deux registres. Quels sont, selon vous, les premiers mythes qui apparaissent dans la franc-maçonnerie ?
Eh bien, le premier mythe que la franc-maçonnerie ait généré, c'est celle de ses origines. Parce qu'il faut rappeler que la franc-maçonnerie spéculative organisée, c'est-à-dire celle que nous connaissons de nos jours, comme on la connaît partout dans le monde, a été créée au début du XVIIIe siècle en Angleterre, et en particulier il y a une date phare qui est le 24 juin 1717, avec la fondation de la première grande loge, la Grande Loge de Londres et de Westminster. Seulement voilà, elle avait un problème, c'est qu'une telle structure n'avait jamais existait auparavant. Donc très rapidement, elle a décidé d'écrire sa propre histoire. Mais cette histoire, c'était l'histoire de quelque chose qui n'existait pas. Il a donc fallu composer une histoire, un récit des origines, qui se présente comme un récit historique, mais qui en réalité était nourri de légendes, et ce sont les premières légendes que la franc-maçonnerie a mises en place. Et pour n'en citer qu'une, parce que c'est la légende à l'origine de toutes les autres, c'est l'idée qu'elle dérivait directement, sans rupture ni discontinuité, des corporations ou des guildes ou des associations de bâtisseurs du cathédrale du Moyen-Âge. Alors c'est vrai qu'elle leur a emprunté beaucoup, mais aujourd'hui, on sait que cette filiation directe est insoutenable historiquement. C'est finalement le premier mythe de la franc-maçonnerie.
Alors, cet héritage, entre guillemets, des bâtisseurs de cathédrales, il a été très vite enrichi par le mythe d'Hiram, qui semble lui aussi effectivement fondateur. Quel rôle, selon vous, joue-t-il sur le développement de cette jeune franc-maçonnerie ?
Alors, c'est probablement un des tournants majeurs, et d'ailleurs très précoces, de la franc-maçonnerie spéculative. Elle a repris des modèles d'organisation qui avaient été ceux du métier de maçons, depuis les temps médiévaux en effet, et on sait que dans les métiers, dans la progression à travers les métiers, on passait par un stade d'apprenti, puis un stade de compagnon. Mais la carrière s'arrêtait là. C'est-à-dire que quand on était compagnon, on était au maximum de ses compétences et on finissait sa vie comme compagnon. On était, si je puis dire, un éternel compagnon. Au début, la franc-maçonnerie spéculative, qui n'est plus composée de professionnels, mais de gens qui utilisent les symboles du métier de maçon, a repris cette organisation en deux grades. Et puis, il se passe quelque chose d'imprévu, dont l'initiative est venue d'on ne sait d'où, et on ne sait pas d'où elle est partie, et on ne sait pas qui a décidé de le faire. Vers 1725, ou sans doute un peu avant, on crée un troisième grade, qui est le grade de maître. Et la nouveauté de ce grade, c'est que, à la différence des deux premiers, il n'est pas fondé sur une vague référence archéologique au temple de Salomon et à ses deux colonnes. C'est à peu près tout ce qu'on dit du temple de Salomon dans les deux premiers grades, qui avait une colonne à droite et qui avait une colonne à gauche. Non, ce nouveau grade est fondé sur un mythe, un récit fondateur, que le candidat est amené à incarner au cours de la cérémonie. Et ça, c'est un modèle totalement nouveau qui va faire que la franc-maçonnerie, ça n'est plus simplement la réception d'une histoire, c'est l'inclusion dans une histoire qui trouve sa source dans la Bible, mais qui n'est plus une histoire racontée, mais qui devient une histoire vécue.
Et un mythe. Selon vous, Roger Daché, est-ce qu'il y a d'autres mythes fondateurs de la franc-maçonnerie ?
Alors, il y en a évidemment un qui joue un très grand rôle et qui explique en grande partie pourquoi la franc-maçonnerie a pu devenir d'opérative, c'est-à-dire de purement professionnelle, spéculative, c'est-à-dire purement intellectuelle. C'est tout simplement le mythe du temple de Salomon qu'on vient d'évoquer à l'instant. Bien sûr, c'est un monument très important de l'histoire biblique, mais pourquoi a-t-il joué un rôle central dans l'imaginaire des maçons ? Eh bien, il y a une image qui permet de le comprendre. C'est une image qui remonte au début du XVe siècle, qu'on peut très facilement trouver sur Google. Vous tapez « Temple de Salomon Jean Fouquet », qui est un peintre et un illustrateur du début du XVe siècle, et vous allez voir cette image que tout le monde a vue. C'est une représentation supposée du chantier du Temple de Salomon, et le roi Salomon vient inspecter le chantier. Seulement, voilà, ce Temple de Salomon est représenté comme une cathédrale du gothique flamboyant. Il est bien évident que le temple de Salomon, 10 siècles avant notre ère, ne ressemblait absolument pas à une cathédrale du gothique flamboyant.
S'il a existé.
Si il a existé. Mais mettez-vous dans la peau d'un jeune ouvrier qui travaille sur un chantier médiéval au XIIIe, au XIVe ou encore au début du XVe siècle. L'espérance de vie d'un ouvrier à cette époque est de 35 ans. 40 ans pour les très très vieux. Il commence son métier à 12 ou 13 ans. Il va passer une vingtaine d'années sur un chantier. Combien dure un chantier de cathédrale ? 50, 60, 80 ans, un siècle. Ce qui veut dire qu'un très grand nombre de ces ouvriers est arrivé sur un chantier dont ils n'avaient pas vu poser la première pierre et dont ils n'ont jamais vu l'achèvement. Et de sorte que, si on leur avait montré cette image, parce qu'on ne pouvait pas leur montrer un texte, ils ne savaient ni lire ni écrire, si on leur montrait cette image du temple de Salomon et qu'ils regardaient la cathédrale sur laquelle ils étaient en train de travailler, ils pouvaient très bien se dire « mais je suis en train de bâtir le temple de Salomon ». Et c'est pour cette raison que le mythe du temple de Salomon a traversé toute l'histoire de la maçonnerie comme le bâtiment éternel que finalement, on n'arrête pas de construire.
Et qu'on continue effectivement d'édifier. Alors, selon vous, du point de vue de la fonction de ces mythes, en quoi les mythes maçonniques se distinguent-ils des mythes fondateurs d'autres traditions religieuses ou spirituelles ?
Un mythe, par définition, c'est toujours un récit d'origine, c'est toujours un récit de fondation. Et les mythes de la maçonnerie sont empruntés à une trame qui est une trame biblique. Le temple de Salomon, on vient de le dire, c'est l'un des plus grands monuments de la Bible. Le mythe d'Hiram, il faut s'arrêter un peu sur lui, parce qu'il est très intéressant pour comprendre l'apport spécifique de la franc-maçonnerie. Hiram est un personnage qui est mentionné dans la Bible, au deuxième livre des Rois et dans les Chroniques. On lui consacre 4 lignes. On dit simplement qu'il a coulé en airain les 2 colonnes qui bordaient l'entrée du temple du roi Salomon. C'est ni un maçon, ni un architecte, ni un chef de chantier. C'est un fondeur d'airain. C'est tout. Et qu'est-ce que dit le mythe maçonnique d'Hiram ? c'est le chef des maçons, c'est le maître maçon, c'est l'architecte du temple, il est doté de toutes sortes de capacités, le livre des chroniques dit même qu'il sait travailler le bois, le métal, l'étoffe, donc ça devient une espèce de, d'architecte d'intérieur, d'architecte décorateur. Et surtout, on raconte son destin, on raconte sa mort dans des circonstances tragiques dont il n'est absolument pas fait mention dans la Bible. Donc on voit que la franc-maçonnerie, qui est une tradition qui a pris naissance dans la conscience occidentale européenne au sortir du Moyen-Âge, s'enracine dans un récit biblique, mais s'empare de ce récit pour l'enrichir et surtout l'appliquer à une perspective beaucoup plus humaine. Il s'agit plus d'un simple récit, de raconter des histoires qui sont supposées s'être passées il y a très longtemps. Il s'agit d'en faire un récit vivant que l'on est invité à incarner.
Et au-delà, on peut dire que tous ces mythes maçonniques, alors celui d'Hiram qui est central effectivement, mais il vise surtout à créer une relation spécifique au sacré et au spirituel.
Oui, et c'est une relation qui n'est pas purement intellectuelle. Parce qu'il y a toute une différence. D'ailleurs, c'est un sujet qui vient souvent dans les conversations quand les gens disent « Eh bien moi, je n'ai pas besoin d'être franc-maçon parce que tous les rituels maçonniques se trouvent sur Internet, il me suffit de les lire. » Et n'importe quel franc-maçon sourira en disant « Vous pouvez lire tous les rituels que vous voudrez, vous ne l'aurez jamais vécu. » Donc les mythes maçonniques, comme d'ailleurs tous les véritables mythes, sont toujours liés à des rites qui les mettent en œuvre. À travers ces mythes mis en œuvre, la franc-maçonnerie telle qu'elle est conçue à l'origine, au fond, vise à faire de chacun de nous un acteur ici et maintenant, un acteur d'une histoire sainte qui n'est pas une histoire du passé, mais qui est au fond un récit permanent, un récit éternel qui possède une vérité qui ne passe pas avec le temps.
Et qui devient finalement l'histoire de chacun, puisque nous sommes invités à incarner tour à tour, ces différents personnages.
Chacun d'entre nous devient un acteur de cette histoire universelle.
Alors, sur la fonction des mythes maçonniques, toujours, comment éviter deux écueils qu'on peut considérer comme étant opposés, c'est-à-dire réduire les mythes maçonniques à de simples récits historiques, d'un côté, ou de l'autre, les sacraliser comme des vérités intangibles ?
Toute l'ambiguïté du mythe réside là-dedans. C'est-à-dire que les anthropologues considèrent que il y a, par exemple, Lévi-Strauss a beaucoup écrit là-dessus, il n'y a pas d'opposition entre le mythe et l'histoire, parce que le mythe s'enracine toujours dans une histoire. Simplement, l'histoire, c'est un flux d'événements qui avance inexorablement et sur lequel on ne peut plus revenir. Le mythe reprend à son compte l'histoire, la réécrit d'une certaine manière et lui donne un caractère éternel pour qu'elle produise du sens. Donc c'est une réutilisation de l'histoire, du matériau de l'histoire auquel on donne une signification spécifique indépendamment du temps qui passe et qui nous échappe. C'est ça le rôle spécifique du mythe.
Alors justement, Roger Daché, comme vous êtes historien de la franc-maçonnerie, comment conciliez-vous la rigueur scientifique avec l'attachement affectif et symbolique que suscitent ces mythes en franc-maçonnerie ?
Alors c'est un vieux débat. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que, par exemple, à la fin du 19e siècle, on a commencé à travailler sur l'histoire des origines du christianisme et sur la vie de Jésus. Ça a suscité dans les milieux religieux un véritable tollé. On s'est dit, mais en cherchant à restituer l'histoire, on va dire scientifique, l'histoire positive de Jésus-Christ, on va détruire son mythe, c'est presque une profanation. Il y a eu des batailles idéologiques d'une violence qu'on n'imagine plus. Or aujourd'hui, cette recherche de ce qu'on appelle le Jésus de l'histoire est enseignée dans les facultés de théologie comme un moyen de mieux comprendre l'histoire dans sa dimension sacrée. Donc la connaissance d'une réalité historique n'est jamais à opposer à la sacralité qu'on peut lui trouver. C'est tout simplement une question de point de vue. Mais à partir du moment où on a mieux compris dans quel cadre culturel, dans quel cadre historique, dans quel cadre humain et social le personnage Jésus de Nazareth a pu vivre, on a mieux compris la dimension sacrale qui s'est organisée autour de lui. Donc elle ne s'est pas opposée, elle l'a enrichie. Je pense que c'est exactement le même problème et le même enjeu et le même bénéfice qu'on peut en attendre pour les mythes maçonniques.
Alors, si on fait un saut dans le temps, Roger Daché, les mythes se construisent encore aujourd'hui, n'ont pas exactement la même fonction que ces mythes fondateurs, bibliques et autres, mais disons que la société contemporaine a tendance à créer encore des mythes, que ce soit en politique, et on pense aussi pour les objets du quotidien, avec le livre de Roland Barthes, Les mythologies. En quoi les mythes anciens se différencient-ils de ces mythes modernes? Et, question subsidiaire, rapidement, nous, francs-maçons, qui avons un rapport particulier à la vérité, sommes-nous mieux armés, justement, pour décrypter ces mythes?
Alors, dans la fin des années 50, Carl Gustav Jung avait écrit un petit livre dont le titre était surprenant, venant d'un psychanalyste. Il parlait des ovnis comme un mythe moderne. C'est-à-dire qu'il montrait que dans la société moderne, affrontée à des problèmes que n'ont pas connus les générations précédentes, de nouveaux mythes, de nouveaux récits légendaires, et il considérait que les ovnis, tant qu'on n'avait pas prouvé leur existence véritable, étaient intéressantes parce qu'ils démontraient quelque chose des préoccupations des gens, que ces ovnis étaient des mythes. Donc, les mythes continueront à être, tout au long de l'histoire de l'humanité qui reste encore à courir, ce qu'ils ont toujours été, c'est-à-dire des solutions que l'esprit humain recherche par moments pour se conforter dans la position qui est la sienne, pour redonner du sens à sa présence dans un univers qui le dépasse et qui naturellement l'interroge. Au fond, c'est une tentative permanente, à la fois désespérée, mais pleine d'espoir, de trouver des réponses.
Merci beaucoup Roger Daché. Pour conclure rapidement, Chemin de Traverse, la revue de la Fédération Française du Droit Humain, consacre son dernier numéro aux mythes, contes et légendes. De quoi prolonger les réflexions de ce matin.
Nous vous remercions Roger Daché pour vos éclairages lors de cette émission. Nous remercions également Timothée Hubert à la technique, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Claire Poinsignon à la préparation. Merci pour votre écoute et bon dimanche à toutes et à tous.